de critique, marquez qu'elle doit toujours arriver en dernier lieu. Alors c'est normal. Vous avez commencé. Alors, c'est le premier cours. C'est pour vous situer la critique par rapport à l'ensemble de la philosophie. Chez Aristote, la critique est toujours en même temps que la métaphysique. C'est pour ça que c'est si difficile et si long de lire la métaphysique d'Aristote par rapport à la substance. Le livre Zeta sur la substance est un exemple merveilleux de voir que métaphysique et critique sont toujours ensemble. La critique a lieu parce que j'ai conscience de penser. Vous avez conscience de penser. J'espère que vous avez conscience de ce qu'est la métaphysique. Vous avez conscience de ce qu'est les mathématiques. Vous avez conscience de ce que c'est que l'expérimentation. Vous avez conscience de ce que c'est que la rhétorique. Un avocat, est-ce qu'il dit la vérité ? Ah, il plaide. Il plaide une cause. Alors il cherche quelle est la possibilité de la miséricorde s'il est chrétien. Et il plaide la miséricorde pour le pauvre type. Il n'était pas très conscient. Il avait bu. Alors il n'était pas très conscient. Et c'est comme ça qu'il a commis ce crime. Mais la rhétorique, c'est un art. Et la critique regarde tout ça. La critique est très importante. Or, chez Aristote, métaphysique et critique sont toujours ensemble. Et pour nous, la très grosse difficulté, dans le livre Zeta sur la substance, c'est de voir qu'au fond, la pensée métaphysique, dans toute sa pureté, n'arrive qu'au terme du livre d'État. Et c'est pour ça qu'on peut faire dire à Résa des tas de choses, parce qu'on n'a pas distingué suffisamment l'aspect critique et l'aspect métaphysique. Et c'est ce qui rend la lecture du livre Zeta. Parce qu'il faut lire le livre Zeta, pas la première année, mais la seconde année, il faut lire le livre Zeta, même si vous n'y comprenez rien. Parce que c'est difficile, il faut le lire 50 fois. Je crois que j'ai lu 50 fois. Avant de comprendre ce que veut dire Aristote, vous voyez, c'est tellement difficile d'arriver à un stade ce qu'est l'être. Et l'interrogation, justement, vous posez qu'est-ce que c'est que l'être ? Le tiesti de l'être, du toon, de ce qui est, le tiesti de ce qui est. Réfléchissez un petit peu là-dessus, hein. Pas trop le soir, vous ne dormirez pas là. La métaphysique nous empêche de dormir. Alors, c'est très bien pendant le cours, mais c'est très ennuyeux le soir. Ce qu'est, ce qu'est l'être. Alors, on voit tout ce que les gens ont pu dire. Ce que Platon a pu dire, qu'est-ce que c'est que la substance chez Platon ? La substance, la recherche de la cause formelle. Alors voyez, tout de suite, on voit pourquoi l'intelligence cherche-t-elle les causes? Pourquoi on cherche la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente, la cause exemplaire, la cause finale? Ça doit être la critique qui se fait ça. Qui se demande pourquoi l'intelligence interroge-t-elle toujours? Et elle interroge selon des poteaux indicateurs des directions. Qu'est-ce que c'est que la cause matérielle? Qu'est-ce que c'est que la cause formelle? Qu'est-ce que c'est que la cause? Donc, vous voyez, la critique, elle naît en même temps que la pensée. Votre pensée philosophique, normalement, quand vous êtes arrivé vraiment au point de vue philosophique, elle implique conscience de ce que vous pensez au plan métaphysique. Et cette conscience de ce que vous avez pensé, c'est la critique. Mais une conscience pas psychologique, hein, parce qu'il n'y a rien de moins critique que la conscience psychologique. Elle est passionnelle. Une conscience passionnelle n'est pas arrivée à un niveau de l'intelligence. C'est la passion. Vous avez conscience quand vous êtes en colère. Vous avez conscience quand vous aimez un petit gâteau en plein carême. Le chocolat. Vous vous précipitez dessus. Vous avez conscience que vous faites pas, si vous ne faites pas grande attention, si Monseigneur n'est pas à côté de vous, au repas, vous vous servez largement. Si au contraire, Monseigneur est à côté de vous, vous vous servez en regardant comment il s'est servi, pas plus que lui. Mais, alors vous avez le coup d'œil de regarder à droite ou à gauche, hein, et ça c'est critique. Hein. C'est critique par rapport à vous-même. Quand vous êtes seul, oh, vous lui donnez à cœur joie. Il n'y a que les anges qui voient. Ils sont bons, les anges, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc ils sont bons. Ils sont très bons. Ils n'ont pas de passion. Ils sont des pures intelligences. Pas de passion. Ils aiment, mais pas passionnément. Tandis que nous, oh, nous avons beaucoup de peine de dépasser la passion amour. Et la critique va naître à ce moment-là. Le dépassement de la passion. Tant qu'on est dans la passion, on ne critique pas. Un homme passionné ne se critique jamais. Et quand la passion prend tout, il ne se critique jamais, donc il est toujours de bonne foi. Il a tué son épouse de bonne foi. Il ne sait pas pourquoi, mais il est comme ça. Alors la passion s'impose. Il faut dépasser la passion pour que l'intelligence arrive à avoir cette auto-lucidité sur elle-même. Cette auto-lucidité sur elle-même permet la critique. Alors, dès que la métaphysique, dès que la pensée métaphysique existe, vous avez cette lucidité critique. J'ai la lucidité critique sur le jugement « ceci est ». Et je vois que « ceci est » dépasse tout point de vue passionnel. L'être dépasse la passion. Alors, vous voyez, l'émergence de la critique. La critique ne commence que quand on a une pensée métaphysique. Vous ne pouvez pas critiquer les mathématiques. Vous les critiquez au nom de la métaphysique. Donc, en dépassant les mathématiques. et en situant la pensée mathématique à tel niveau de pensée. Mais les mathématiques comme mathématiques, c'est évident. Il n'y a pas de critique, c'est évident. Dès que vous êtes devant l'évidence, il n'y a pas de critique. Vous dites c'est évident. 2 et 2, 4. Oui, je me souviens de cette mère qui me disait, je ne sais pas ce qu'il a mon fils, mais les mathématiques, il a de la peine énormément. Et son professeur de mathématiques a dit qu'il était un imbécile, il ne comprend rien en mathématiques. Parce que 1 et 1, 2, 1 et 1, 1. Voilà ce qu'il a dit à sa mère. Alors sa mère a dit, il doit être génial mon petit. 1 et 1, 1. C'est vrai, 1 et 1, 1. En restant là. Alors quand il a pris son bain, sa mère lui a enlevé une balle. Une balle. 2 balles. Ah maman, ah c'est pas ça qu'il a dit le maître. Il a dit 1 et 1, 2. Il n'a pas dit une balle, plus une balle, 2 balles. Ah, sa mère, quand j'ai dit, ah, oh, c'était très calé, ça. 1 et 1. Ben oui, c'est 1. Comment c'est 2? Une balle plus une autre balle, 2 balles. Alors, sa mère, à ce moment-là, est venue me trouver. Elle dit, qu'est-ce que je dois dire? Son professeur de mathématiques dit qu'il ne comprend rien parce qu'il n'accepte pas et 1 et 1 et 2. Et je pense que mon fils est très intelligent. Alors, j'avais presque envie de dire plus intelligent que le professeur de mathématiques, sans doute, hein, vous comprenez. Et c'est vrai, l'addition. Comment l'intelligence additionne? Elle additionne à cause de la quantité. Ah tiens. Quand il n'y a pas de quantité, on ne peut pas additionner. Vous êtes au-dessus du nombre. Vous ne pouvez pas additionner le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous vous dites 3 et Dieu dit 1. Des drôles de mathématiques, hein? Vous dites 3 et Dieu dit 1. Est-ce que vous additionnez la qualité? Non. Vous additionnez la quantité. Une balle et une balle. 1, en dehors de la quantité, 1 métaphysique ne s'additionne pas avec 1. Ah, c'est curieux. Il faut le divisible. La quantité qui est divisible, c'est le fondement de toute l'addition. Vous voyez, la critique. On réfléchit sur ce qu'on dit tout le temps. Ce bon professeur de mathématiques, parce que le petit gosse disait 1 et 1, 1, et dit, tu ne comprends rien en mathématiques, il est complètement idiot. Et sa mère, elle, qui connaissait son fils, elle savait qu'il n'était pas idiot. Non, il doit dire quelque chose de très profond. Vous voyez, à un moment, la critique a émergé. Et on a séparé la critique de la pensée directe. Il a fallu du temps. Parce que pour saint Thomas, la critique est simultanée à la métaphysique. J'ai conscience de dire ceci est. J'ai conscience de ça. Et je vois quand je dis ceci est, c'est pas la même chose que de dire « je suis ». Quand vous dites « je suis », je, c'est pas ceci. Je suis, c'est très spécial. Vous voyez, le mouvement que je vous disais l'autre jour, quand vous dites « ceci est », tout l'accent est sur « est ». Quand vous dites « je suis », tout l'accent est sur le « je ». Il y a donc une inversion. Dès que vous êtes en cause, ah, tout retourne vers vous. Dès que c'est la réalité, vous la voyez. Moi, je suis, je ne m'additionne pas avec mon voisin qui dit « je suis ». Tu dis « je suis », moi aussi. Alors, il faut s'entendre, hein. On va se respecter. Je respecte ton « je suis », je respecte le mien. Tu peux dire de grosses bêtises, tant pis, c'est toi. Je peux dire des grosses bêtises, tant pis, c'est moi. Vous voyez le primat du sujet qui apparaît. Alors comment? C'est le primat de l'objet. C'est très curieux ça. C'est très intéressant de voir la naissance de la critique. De la critique comme, je dirais, une science distincte de la métaphysique. On ne peut critiquer que quand on est arrivé au stade métaphysique. Et c'est pour ça que le propre de la sagesse, c'est de pouvoir critiquer. Parce qu'on est arrivé au terme. Alors à ce moment-là, on peut distinguer l'objet, ce qui commande ma connaissance, ce qui spécifie ma connaissance, et la manière dont je le connais, c'est pas la même chose. Le comment de ma pensée, la critique, c'est le comment de ma pensée intellectuelle. Comment je commence à avoir une pensée métaphysique au niveau de l'être, c'est le comment. Alors, cette critique, elle a commencé à être distincte de la métaphysique. On a critiqué ce qu'on a pensé. Mais elle est relative quand même. La critique est toujours seconde. Il faut avoir quelque chose à critiquer. Or, la critique est née au plan philosophique comme la dernière. Et elle a pris une place énorme parce que dans la critique, le sujet, moi, est premier. Dans la critique, c'est ma pensée. C'est pas la pensée, mais c'est ma pensée. C'est ma métaphysique, ma manière de connaître. Et je cherche la petite originalité de ma pensée. Nous sommes tous originales. Hein. C'est pas la peine de chercher votre originalité. Vous l'êtes. Vous n'avez qu'à vous regarder dans la glace. Et regarder dans la glace, c'est la critique. Vous vous rasez. Et vous regardez si le poil est resté. Critique. C'est que naturel à l'homme de critiquer, de se critiquer. Vous regardez si vous êtes bien coiffé. Quand tous les cheveux sont enlevés, c'est parfait. On supprime la critique. Et on a un crâne métaphysique. Plus de critique. La critique est toujours seconde. Il faut avoir pensé pour critiquer sa pensée. Si je n'ai pas pensé, puis-je critiquer? Ah! La critique est apparue la dernière. Et petit à petit, la critique est devenue première. Descartes, Kant. Chez Descartes, la critique est apparue par le doute, le scrupuleux ou la scrupuleuse. C'est celui qui, ayant agi, regarde indéfiniment son action. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est ce que j'aurais dû faire? Est-ce que j'ai... Et vous regardez, vous n'avancez plus. Parce que le scrupule arrête. Descartes a commencé par le doute. Oui, quand vous mettez un bâton dans l'eau, il vous apparaît comme coupé, cassé. Oh, alors quoi? Je retire le bâton, il est entier. Comment ça se fait, ça? Il y a quelque chose. Alors, quand je vois la lune, premier quartier, tout petit quartier, oui, c'était cette brave personne. J'étais dans le midi de la France. Dans le midi de la France, les imaginations marchent bien. Alors, cette brave personne qui faisait cette réflexion au moment où on parlait des cosmonautes. Oh, c'est curieux. Ils font leur opération quand la Lune est tout petite. C'est pas étonnant qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. C'est très joli, ça. Quand la Lune est toute petite. Premier quartier, rien du tout. Mais ben oui, on va la manquer. Tandis que dans la pleine lune, oh, on ne va pas la manquer, celle-là. On est sûr de la voir. Et c'est très vrai. Vous critiquez votre pensée. Et vous savez que c'est la même lune que vous atteignez. Premier quartier, c'est la lune que j'atteins. Pleine lune, c'est la lune que j'atteins. Elle a grossi. Sans que vous en aperceviez. La nuit, elle a grossi. La critique, petit à petit, est devenue première par le doute. Voyez, le monde d'aujourd'hui doute. Et la critique est première. Oui, à partir de Kant, Kant devient vainqueur. Les néo-kantiens sont persuadés qu'ils sont victorieux, que la critique est première. Et nous disons, nous, mais pour critiquer, il faut connaître. Je critique ma pensée. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Non, je critique d'abord mon instrument qui est la pensée. Alors je critique mon intelligence. Alors, peut-on critiquer son intelligence? Peut-on critiquer son intelligence? Sans que mon intelligence ait vécu, ait opéré, puis-je la critiquer? Quand Aristote dit que l'intelligence est tabula rasa, tabula rasa, il le dit en grec, ça vaut mieux, tabula rasa. L'intelligence n'a en elle-même et par elle-même, elle est une attente de l'objet. Elle a soif de l'objet. Alors, si l'intelligence vraiment est à vouloir hasard, pour pouvoir connaître, si je veux la critiquer avant que je connaisse pour elle-même, je n'aurai pas grand-chose à dire. Alors, je pourrais dire, oh oui, pour connaître, il faut aimer. Ah, c'était très intéressant quand nos chers néo-kantiens sont venus. C'est quand on leur a dit qu'avant la connaissance, il y avait l'amour. Ah, Alors, la connaissance n'est pas première. Il faut désirer la vérité pour atteindre la vérité. Ah, donc, avant, le tabula rasa d'Aristote doit se ramener à cette soif naturelle de connaître. Et vous ne pouvez critiquer que votre pensée. Vous ne pouvez pas critiquer votre intelligence. Parce que votre intelligence, elle est un don. Vous l'avez reçue. C'est pas vous qui l'avez formée. Et donc, vous respectez ce don. Et vous pouvez essayer de connaître, ah oui. Alors, ne le critiquez pas. Vous avez conscience que vous êtes intelligent. Ça, on a conscience qu'on est intelligent. Et ce n'est pas de l'orgueil. C'est la vérité. Et celui qui est conscient qu'il est intelligent, il est tout entier tourné vers l'objet qu'il veut connaître. Et il comprend que regarder l'intelligence avant toute connaissance, c'est regarder l'amour qui est avant toute connaissance. Il n'y a que l'amour qui est avant toute connaissance. Alors vous me direz, mais pour aimer, il faut connaître. Ah oui, mais il y a deux connaissances. Il y a une connaissance de la réalité qui existe, puis une connaissance de ce qu'est cette réalité. Et pour aimer, il faut la première connaissance, ça suffit. Quand vous connaissez trop bien ce qu'il faut aimer, vous envoyez tous les défauts et vous mettez tous les défauts en avant. Aujourd'hui, on est devant un âge critique et on critique tout. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus aucune fécondité. Vous voyez, c'est très curieux le sort de la critique. Il faut en avoir conscience, ça. Aristote, Descartes et Kant, aujourd'hui. Pour Aristote, la critique, elle est dans l'intelligence. Et donc, elle est seconde pour lui. J'ai conscience de connaître. J'ai conscience d'être intelligent. J'ai conscience de connaître et de ne pas connaître. Quand vous suivez un cours, vous avez conscience. Ah, ça, je comprends. Ça, je comprends pas. Point d'interrogation. J'espère que je connaîtrai. Quand, à la fin de l'année, vous relisez les cours que vous avez pris au début, avec beaucoup de points d'interrogation, à la fin de l'année, ah, les points d'interrogation diminuent. Chez Aristote, connaissance critique est simultanée à la connaissance métaphysique. Et pour bien comprendre ça, lisez le livre « Zeta de la métaphysique ». Un excellent exercice. Le livre des états de la métaphysique, où la critique est toujours liée à la métaphysique. Et l'aspect positif, qu'est-ce que c'est que la substance? C'est le dernier chapitre du livre des états. Il a fallu toute cette recherche. C'est très fatigant, parce que c'est très fatigant la critique. Puis, grâce, sans doute, je dis sans doute, grâce à la théologie, la pensée métaphysique a dû se distinguer de la foi. Et la pensée métaphysique, en se distinguant de la foi, a donc eu ce mouvement réflexe sur elle-même pour voir que le jugement métaphysique, ceci est distinct du jugement de foi, Dieu existe. Et au fond, il faut tout le temps venir à ça, distinguer le jugement métaphysique du jugement de foi. Tant que vous n'êtes pas arrivé à distinguer le jugement métaphysique du jugement de foi, vous n'entrez pas en métaphysique. Et vous croyez que la foi, c'est la métaphysique. C'est ce qu'on appelle le fidéisme. Le fidéisme, c'est de confondre ma capacité naturelle de connaître ce qui est et de confondre cette faculté avec le jugement de foi. Le fidéisme est né à partir de Luther. Il était déjà avant, Occam. Mais avec Luther, il s'est formalisé très fort en disant « Mon intelligence a été blessée par le péché. Puisque mon intelligence a été blessée par le péché, il faut tout de suite avoir recours à la foi. Autrement, je reste toujours en face d'une intelligence qui ne peut pas discerner la vérité de l'erreur. Seule la foi me permet de discerner la vérité de l'erreur. C'est ça qu'on appelle le fidéisme. Et vous voyez que le fidéisme est né contemporain avec le protestantisme. Je me souviens, dans ce dialogue que j'avais fait avec le pasteur Finet, je le retiens, le pasteur Finet, le même nom que le père Finet, ce pasteur, on était tout à fait d'accord. Ça allait très bien. Puis alors, quand on est arrivé à la connaissance qu'on pouvait philosophiquement dire que Dieu existe, alors, il s'est dit, ah non, ça, c'est la foi. Il n'y a que la foi qui peut me dire que Dieu existe. Donc, la métaphysique, il n'allait pas jusqu'au bout. Il s'arrêtait à une connaissance pratique. La connaissance spéculative, c'était la foi. C'était très significatif. Le fidéisme est né en même temps que le protestantisme, Luther. Et le fidéisme, progressivement, gagne l'Église catholique. Blondel reste dans le fidéisme. Alors on parle d'une philosophie chrétienne. On dit, la philosophie ne peut être que chrétienne parce que la foi rectifie mon intelligence. Et l'Église alors a précisé, l'intelligence n'a pas été atteinte par le péché. Elle reste la même. L'exercice de mon intelligence a été atteint par le péché parce que je suis paresseux. Parce que je suis paresseux, je reviens à la foi. Oui. En disant, oh, c'est trop difficile la métaphysique, beaucoup trop difficile. J'aime beaucoup mieux de croire, c'est plus facile. Et vous voyez, le fidéisme est venu parce que c'était trop difficile d'arriver à éveiller mon intelligence à l'égard de l'être, ceci est. Et je suis resté devant une intelligence pratique. Et le fidéisme, actuellement, pénètre dans l'Église. Et fait que la métaphysique a pratiquement été rejetée chez des quantités de chrétiens. C'était plus facile de croire. Alors, par le fait même, si vous supprimez l'intelligence, vous dites qu'elle est blessée par le péché, vous supprimez la théologie. Puisque la théologie, c'est la foi qui se sert de la métaphysique. Et vous voyez cela très nettement dans l'encyclique Foi et raison. Je vous dis ça, il faut la lire. Il faut la lire et l'étudier de près. Et à partir de là, poser des questions. Des questions vraies qui regardent le catholique, puisque c'est l'enseignement de l'Église. Et que le fidéisme empêche d'aller jusqu'au bout et arrête la théologie, la connaissance théologique. Alors vous voyez, la critique à ce point de vue-là est très intéressante, parce qu'on voit que celle qui est née en dernier lieu se venge et prend la première place. Aujourd'hui, la critique est première depuis Kant. Et elle a gagné énormément. Et on essaie de sauvegarder une pensée métaphysique par la critique. Or, vous ne pouvez pas sauvegarder la métaphysique par la critique. Vous voyez tout de suite pourquoi. Puisque la métaphysique, c'est de découvrir l'objectivité de l'intelligence. Ceci est. Mon intelligence est faite pour connaître la réalité. La réalité première, pour moi, c'est la personne. Je ne peux pas avoir une expérience plus parfaite que l'expérience de mon ami. La personne de mon ami. Et grâce à cela, mon intelligence demeure capable, capax, capable de recevoir ce don de Dieu gratuitement, qui est la foi. La foi vient d'en haut, il ne faut jamais l'oublier. La foi ne vient pas d'en bas. C'est pas moi qui découvre la foi. C'est Dieu en moi qui me permet d'être croyant. C'est l'intelligence divine qui passe en premier lieu. Et à travers l'intelligence divine, je crois. Je suis trop petit pour arriver et accéder au mystère de la très sainte Trinité par moi-même. Et donc, je me sers, ou plus exactement, je reçois l'illumination de Dieu. La foi, c'est adhérer à la réalité surnaturelle en me servant de la lumière divine, par la lumière divine, dans la lumière divine. Donc, toute réalité de foi vient d'en haut et non pas d'en bas. Et ça, c'est capital. Aujourd'hui, la foi, hélas, chez des quantités de chrétiens, vient d'en bas. C'est extraordinaire de voir ça. Et par le fait même, elle est limitée. Elle vient d'en bas, elle limite l'expérience. Vous voyez, je voyais ça dans une revue scientifique. On a découvert des restes en Égypte, des choses très curieuses, qui peut-être font comprendre les plaies d'Égypte. Et là, on dit, ah, puisqu'on a découvert ça, ce que dit l'Écriture est peut-être vrai. Vous voyez, la science passe devant et mesure ma foi. Et ça, c'est ce qui arrive toujours. La science passe devant et mesure ma foi. Vous voyez, le comité bioéthique mesure la morale en France. Et mesure la foi. Tout ce que la bioéthique découvre devient croyable. Ce que la bioéthique ne découvre pas, je sais pas. Quand le Christ reviendra, y aura-t-il encore la foi? La vraie foi, lumière d'en haut. On accepte la foi, lumière d'en bas. Ma foi est mesurée par mon... Vous voyez, la critique me montre ça d'une façon très aiguë. Toutes mes connaissances, la métaphysique comprise, viennent d'en bas et remontent jusqu'à Dieu pour la métaphysique. Mes connaissances de foi viennent d'en haut. C'est à partir de la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que je crois. Et la parole de Dieu assume l'homme dans toute sa plénitude, le Christ. Et je regarde l'homme dans la lumière du Christ. Si je suis chrétien, c'est le Christ qui est ma mesure. Parce que je regarde la vérité à partir de Dieu et dans la lumière de Dieu. C'est très, très important, ça. Vous voyez, la critique, à ce moment-là, vient me montrer d'une façon très nette ce qui est acquis par mon intelligence, ce qui est de l'ordre de mon intelligence et ce qui dépasse mon intelligence. Et qui, par le fait même, ne peut pas être mesuré par ce que l'homme connaît. Ma vie de foi n'est mesurée que par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'est incarnée. Le Verbe fait chair. Et donc la mesure de ma foi, c'est le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Et non pas le point de vue historique. Le point de vue historique est très important, très intéressant, surtout en philo et en théologie aussi. C'est très important. Mais ma foi ne repose pas sur les connaissances historiques. Ma foi vient directement de la lumière de Dieu pour me permettre cela. Alors, est-ce que la foi est critique? Est-ce que la critique existera dans le ciel? La métaphysique demeurera. Nous continuerons de faire de la métaphysique dans le ciel. C'est amusant. on se retrouvera comme métaphysique. Ce sera plus un cours, ce serait extraordinaire. Est-ce que la critique demeure? Ou est-ce que la critique est typiquement in via ce qui est en route? C'est une question importante de se poser, ça. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'on veut faire une théologie à partir de la critique. C'est le grand danger d'aujourd'hui. La théologie est finie, on est dans l'âge de la critéologie. Et on va faire une théologie à partir de la critique. Alors je me pose le problème, est-ce que c'est juste ? C'est important de se poser le problème, est-ce que c'est juste ? Ou est-ce que c'est pas cela qui vient supprimer d'une façon radicale ma foi? Le démon qui se cache à travers la critique, parce que la critique est à la mode. Tout critiquer, c'est être à la mode. Accepter béatement les choses, c'est pas du tout à la mode. La critique, elle domine. On paraît intelligent quand on critique tout. Alors, est-ce que la nouveauté de la théologie d'aujourd'hui, ne doit-elle pas être à base critique ? Et c'est la grande question. C'est la question qu'on devrait toujours se poser en face des connaissances théologiques d'aujourd'hui. Toutes les connaissances théologiques qui proviennent de la critique doivent-elles être acceptées? Je me pose la question, et je vous pose la question, et je vous dis, c'est la grande question d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous allez être naïf de croire que la critique peut être au service de la foi? Parce que c'est ça la théologie. La métaphysique est passée, on n'en parle plus. La philosophie première est passée, on n'en parle plus. On a remplacé la métaphysique par la critique. Alors puis-je, en croyant, me servir de la critique pour faire ma théologie? La nouvelle théologie, c'est celle-là. Si je veux être absolument de mon temps, je fais ça. C'est être de mon temps jusque dans la théologie. Alors, j'entends la parole du Christ dans l'évangile de Jean, la rencontre de Jésus avec le théologien. Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ce que c'est que la foi. Naître d'en haut. C'est pas naître d'en bas, c'est naître d'en haut. La troisième critique de Jésus à l'égard de son peuple. Je ne peux pas faire une nouvelle théologie à partir de la critéologie. La critéologie, hein, ça dit bien ça, c'est la critique, le logos de la critique, hein, critéologie. C'est-à-dire la critique qui est la science la plus raffinée, la plus humaine, l'homme critique. C'est être un homme au carré. Parce que c'est un homme qui réfléchit tout le temps et qui n'accepte que ce qui est passé par le crible de la critique. La pensée critique demeure toujours humaine. C'est l'exaltation suprême de l'homme. je n'accepte que ce qui est humain. Et je n'accepte que ce qui est passé par le crible du mode humain. Par le fait même, cela ne peut pas être au service de la foi. Les hommes ont diminué la parole de Dieu et l'ont ramené à une parole humaine. Qu'on critique la parole humaine, c'est sûr. Qu'on critique un système humain, c'est sûr. Peut-on critiquer la parole de Dieu ? C'est très important, ça, de se poser toujours la question. Et en théologie, et vous êtes des théologiens en herbe, et vous êtes déjà des théologiens, puisque vous êtes chrétien et vous faites de la philosophie. On doit se poser toujours le problème. Est-ce que ce n'est pas au nom de la critique que j'affirme ça ? Si c'est au nom de la critique que vous l'affirmez, ce n'est donc pas au niveau de la foi. Donc vous ramenez la foi à une connaissance humaine. Je crois que c'est ça que Jésus veut nous dire. Quand le Fils de Dieu reviendra, y aura-t-il encore la foi ? La connaissance humaine est arrivée à son sommet critique. Et par la critique, il y a une domination humaine sur la connaissance. Et cette domination humaine sur la connaissance se fait que je n'accepte que ce qui est critique. Et par le fait même, il n'y a plus de théologie. Je vous salue.